Vous écoutez On lit pour vous.
Les femmes, dans la littérature autochtone, une voix multiple et majoritaire. Un texte de Catherine Giroir, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes. Discussion avec Joséphine Bacon. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas, écrivait Joséphine Bacon dans « Bâton à message », publié en 2009 chez Mémoire d'Encrier. La poète Innu figure parmi les premières femmes autochtones à prendre la plume après Anne Antan Capesh et Rita Mestocosho. Parmi les voix multiples qui se sont jointes à ces pionnières depuis, celle des femmes résonne abondamment. Une tasse de café fumante entre ses mains, Joséphine Bacon est attablée avec deux jeunes femmes dans la cuisinette du local Niska à l'UQAM. Tous les mardis, c'est dans cet espace étudiant autochtone qu'on trouve la grande poète Innu. À titre d'aînée en résidence, la septuagénaire s'y rend disponible pour échanger avec celles et ceux qui ont envie de venir à sa rencontre, tout simplement. Quand tu es de tradition orale comme moi, ce que tu as de plus précieux, c'est la mémoire. Comme je suis vieille maintenant, je dois transmettre ce que j'ai appris des aînés, partager, accompagner. Ce qu'elle fait avec plaisir dans ce local depuis 2 ans et à travers ses livres depuis 2008, alors qu'elle prenait la plume pour la première fois dans le recueil de correspondance « Aimi Titao, parlons-nous ». « Je suis devenue poète par accident », rigole-t-elle. « C'est grâce à mon amie Laure Morali qui a rêvé qu'elle jumelait des auteurs et poètes québécois avec ceux des Premières Nations. » L'écrivaine Laure Morali passe du rêve à la réalité et tire les ficelles du recueil de correspondance « Aimi Titao, parlons-nous » dans lequel les mots de Joséphine Bacon croisent ceux de José Aquelin. De nos jours, on ne présente plus Joséphine Bacon, qui fait rayonner sa culture à travers le Québec et toute la francophonie. Elle revient tout juste d'un festival de poésie en Suisse où elle a été invitée. Laure nous a fait découvrir qu'on savait écrire, dans le sens de créer. Et aujourd'hui, ça pousse. Les femmes autochtones qui écrivent s'enthousiasme Joséphine en nommant Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine, Marie-Andrée Gilles, Maya Cousineau-Molène. Un effet d'émulation. Jean-François Létourneau, enseignant au cégep de Sherbrooke et membre du comité de lecture chez Mémoire d'Encrier, dit avoir été un témoin privilégié du bouillonnement qu'a connu la littérature autochtone. J'ai amorcé ma carrière à Koudjouak, où j'ai enseigné pendant 4 ans, et j'ai commencé à m'intéresser à la littérature autochtone. Il y a 20 ans, quand j'ai voulu étudier les auteurs des Premières Nations, l'archiviste de l'Institut éducatif culturel Atikamekw Montagnais m'a envoyé une photocopie d'un recueil par la poste. Maintenant, on a des rayons de librairie complets consacrés à la littérature autochtone, des numéros de magazines, plusieurs éditeurs québécois publient des auteurs des Premières Nations. On est complètement ailleurs. Comment expliquer cette effervescence? On ne dira jamais assez à quel point Laure Morali a joué un rôle crucial, répond d'emblée Jean-François Létourneau. La publication de « Aimi Titao, parlons-nous » a été très importante sur le plan critique. Ça a amené les médias à découvrir Joséphine, mais aussi à voir qu'il y a des auteurs autochtones. Parallèlement à cette publication, l'ébullition, qui a lieu à Wendake au même moment, permet de mettre en place une infrastructure autour de cette littérature émergente. Le poète Jean Sioui et l'artiste Louis-Carl Picard-Sioui y ont été très importants, selon Jean-François Letourneau. Ils ont notamment organisé le Carrefour international des littératures autochtones de la francophonie, CILAF, qui a connu un rayonnement médiatique exceptionnel. Des gens arrivaient de partout dans le monde. Il y avait des Atikameks, des Innus, des Inuits, des Wendats. Encore une fois, les Québécois se réveillaient et voyaient qu'il se passait vraiment quelque chose. La création du Salon du livre des Premières Nations a suivi, aussi fondée par Louis-Carl Picard-Sioui, ainsi que celle des éditions Anénorak, première maison d'édition autochtone consacrée à la littérature des Premières Nations, qui fête ses 15 ans cette année. Quand les jeunes auteurs sont arrivés ensuite, il y avait donc une infrastructure qui leur permettait de rayonner, ajoute l'enseignant. Et pour les jeunes femmes, des modèles de femmes avant elles, qui avaient osé, écrit, créé et qui avaient été entendues. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'émulation dans les communautés, avance Jean-François Letourneau. Une jeune adolescente qui rêvait d'écrire avait des exemples concrets d'autrices qui l'avaient fait. Une littérature largement féminine. La toute première autrice autochtone, Anne Antané-Capesh, a longtemps hésité avant d'écrire, explique-t-elle dans la préface de son livre « Je suis une maudite sauvagesse », parce que le livre était un outil de blanc. L'autrice de « Washat Naomi Fontaine » raconte dans la préface d'une réédition des textes de Capesh que la première écrivaine autochtone a eu une énorme influence sur elle. Pour qu'il y ait Naomi Fontaine l'écrivaine, il a fallu qu'il y ait Capesh l'écrivaine, fait valoir Jean-François Letourneau. Les hommes Innus chantent davantage leur poésie en Innu Aïmoun et les femmes l'écrivent en français, fait remarquer Joséphine Bacon. Selon Jean-François Letourneau, les femmes sont en effet très majoritaires dans la littérature autochtone. C'est encore plus vrai au Québec. On explique cela par la diplomation plus élevée chez les jeunes filles dans la population autochtone, avance l'enseignant qui signe quelques essais sur la littérature autochtone, dont « Le territoire dans les veines ». Le fait qu'elles soient majoritaires dans les livres permet d'y faire entendre la perspective de la femme, mais aussi de la mère, qui est celle qui éduque les enfants, transmet la langue, la culture, continue-t-il. Chez les pionnières, on sent vraiment qu'elles sont femmes et mères. Ça se répercute aussi chez les plus jeunes autrices. Dans les livres de Naomi Fontaine, par exemple, la figure maternelle est encore très présente. Joséphine Bacon fait remarquer au passage que, dans sa langue maternelle, les hommes et femmes ne sont pas distincts. En Innu Aïmoun, le féminin et le masculin n'existent pas. On conjugue et divise plutôt les choses selon ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. L'homme et la femme se retrouvent donc sur la même marche, dans la même catégorie. Quand on était encore des nomades, il n'y avait pas un sexe plus important que l'autre, ajoute celle qu'on surnomme affectueusement Bibitte. La femme était très, très importante. C'est elle qui restait au campement, qui s'occupait de tout. C'était, elle, le pilier du clan. de quoi nous inspirer toutes et tous. C'était « Les femmes dans la littérature autochtone, une voix multiple et majoritaire », un texte de Catherine Girouard, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
Certaines communautés disent être encore mal informées au sujet du don d'organes. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir. L'organisme Transplant Québec a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser la population au don d'organes, révèle un sondage obtenu par Le Devoir. Dans certaines communautés culturelles, plus de la moitié des gens estiment être mal informés sur ce sujet. En 2024, 551 Québécois ont bénéficié d'une greffe d'organes. Or, 856 personnes sont toujours en attente d'une transplantation. On tente de voir comment on peut augmenter le don d'organes et sauver plus de vies dans la province. Mais on ne peut pas le faire sans connaître la perception ou les croyances des gens, affirme en entrevue Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec. L'organisme a donc mandaté la firme Léger afin de réaliser un coup de sonde en ligne du 17 au 25 février 2025 auprès de 624 Québécois de différentes communautés culturelles. En tout, 100 Asiatiques, 75 Autochtones, 100 Noirs, 100 Latino-Américains, 101 Moyen-Orientaux et Maghrébins et 148 Blancs ou Caucasiens ont été interviewés pour l'exercice. Selon les résultats, les communautés noires et moyen-orientales et maghrébines sont celles qui ont la plus faible proportion de membres ayant l'intention de donner leurs organes à leur décès, avec des taux respectifs de 41% et de 51%. Le manque de renseignements à propos des démarches liées au don d'organes pourrait expliquer ces proportions peu élevées, relève Martine Bouchard. En effet, 56% des répondants de communautés noires et 63% des répondants de communautés moyen-orientales et maghrébines ont dit être mal informés à ce sujet. Davantage de transparence. Les résultats du coup de sonde montrent que Transplant Québec doit mieux expliquer le processus de don d'organes à la population, souligne Mme Bouchard. Il faut dire aux gens, voici comment on procède à chaque étape. Cela permettra aux gens de prendre une décision éclairée par rapport au don d'organes, estime-t-elle. Ce serait utopique de penser que tous vont ensuite y consentir, mais au moins ils auront l'information adéquate. Certains facteurs peuvent toutefois mener les gens à entreprendre des démarches pour faire connaître leur volonté de donner des organes, constate Guillaume Gingras, directeur de recherche, affaires publiques et communication chez Léger. Dans quelques communautés, notamment autochtones et latino-américaines, le fait d'avoir un proche qui a subi une greffe et de bien connaître ce processus sont des éléments qui les motivent à faire ces démarches. De façon générale, encore trop peu de Québécois osent parler de transplantation avec leur famille, relève toutefois Martine Bouchard. On fait une corrélation avec la mort, qui est un sujet dont on n'est pas souvent à l'aise de discuter avec nos proches. Mais ce n'est pas parce qu'on aborde la question que ça va arriver demain matin. Dans l'ensemble de la population québécoise, de nombreux mythes tenaces au sujet de la transplantation restent aussi à déconstruire, indique la directrice générale de Transplant Québec. Plusieurs personnes, par exemple, se demandent si l'on va s'assurer qu'elles sont bien décédées avant qu'on prenne leurs organes, mentionne-t-elle. Madame Bouchard rappelle qu'il n'y a toutefois pas de crainte à avoir, car le décès doit être constaté et confirmé de façon indépendante par deux médecins qui ne font pas partie des équipes de prélèvement ou de transplantation. Certaines personnes vont aussi penser qu'il existe une limite d'âge pour pouvoir donner des organes. Or, on sait que le plus vieux donneur avait 92 ans, et que le plus jeune avait 48 heures. La variété est donc très, très grande, affirme Mme Bouchard. Le don d'organes est un projet de société, souligne-t-elle. On veut comprendre le plus possible les différentes réalités des gens, car on souhaite montrer la voie et travailler avec tout le monde, conclut-elle. C'était « Certaines communautés disent être encore mal informées au sujet du don d'organes », un texte de Florence Morin-Martel paru le 21 avril 2025 dans Le Devoir.
Sylvie, l'agricultrice chouchou de L'amour est dans le pré. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 avril 2025 dans le magazine Fugue. Sylvie n'a peut-être pas trouvé l'amour durant la 13e saison de L'amour est dans le pré, mais l'agricultrice a fini la saison avec d'abondantes récoltes. En plus de nouer de franches amitiés avec les autres agriculteurs, elle a séduit le grand public et elle reçoit des messages de plusieurs prétendantes sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à L'amour est dans le pré? Au début, je ne voulais pas. Je suis une personne humble. Je suis bien toute seule dans le fond de mon rang. Je n'utilise pas les sites de rencontres et je me demandais comment trouver la bonne personne. Mon entourage m'encourageait à m'inscrire à l'émission. Après quelques années célibataire, j'étais prête à rencontrer. Mon passé est réglé. J'ai envie d'aller de l'avant. Je veux une amoureuse avec une belle joie de vivre, calme et qui aime le monde. La production a choisi les trois candidates à ta place. Sais-tu pourquoi? Quand mon profil a été diffusé sur le site web de nouveau durant l'été, certaines personnes m'ont retrouvé pour apprendre à me connaître, sans passer par l'émission. Je répondais que je ne pouvais pas. Elles étaient trop gênées et elles ne voulaient pas passer à la télé. Moi non plus, je ne voulais pas, mais j'ai osé. Combien de prétendantes se sont officiellement inscrites pour toi? 8, je crois. J'avais précisé que je ne voulais pas une fumeuse à temps plein. Certaines personnes là-dedans ont donc été mises de côté, tout comme les personnes plus timides. Moi, faut que ça bouge, sans que la personne soit comme moi, qui roule à 100 000 à l'heure. La production a trouvé 3 femmes qui correspondaient à mes demandes. Je leur ai fait confiance. Quand tu repenses à la semaine passée avec Ninon, Ginette et Manon, qui s'étaient installées sur ton terrain, chacune dans leur roulotte, qu'est-ce qui te revient en tête? Nos échanges. Ce qui m'a touché, c'est leur parcours, leurs secrets, leurs problèmes, leurs inquiétudes. C'est venu me chercher. Je suis une personne super sensible. Dans la vie, en dehors de l'émission, je suis ce qu'on appelle une sentinelle. J'aide les agriculteurs en détresse psychologique. Je suis à l'écoute des gens, même si je parle beaucoup. Donc, leurs confidences m'ont beaucoup marqué. Tu as choisi Manon. Puis, après coup, tu as senti que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Ninon, je la voyais plus en amie. Ginette a réalisé qu'elle devait travailler sur son estime et cheminer sur son passé. Manon, je lui ai dit que je voulais apprendre à la connaître. J'ai découvert une femme réservée. Dans l'émission, j'ai utilisé le mot « froide », mais la réalité, c'est « réservée ». Comme elle n'a pas eu plusieurs relations dans sa vie, elle est un peu pognée. Moi, j'aime toucher. Je regarde la personne jusque dans son âme. J'entre dans sa bulle. J'aime que l'autre fasse ça aussi avec moi. Manon ne s'ouvrait pas beaucoup. Je ne voyais pas un bon match entre nous. J'ai l'impression que tous les autres agriculteurs et leurs blondes sont tombés en amour avec toi. À quoi ressemblent les liens que vous avez tissés? On est resté proches et j'ai des liens particulièrement forts avec Annie et mon beau Guillaume, le prétendant de Cynthia. C'est mon chummy à vie. On s'aime. C'est une bonne personne. Il y a aussi Victor, Jessica et Maude, de qui je suis proche. En général, je me suis fait de bons amis. C'est une maudite belle gang. Tu sembles aussi être la chouchou du public. Comment expliques-tu cela? Mes amis proches et ma famille me disent que la Sylvie dans la vraie vie et celle à la télévision, c'est la même. Je n'ai pas joué un rôle. Les gens trouvent que je suis authentique. Je pense aussi que de voir des femmes gays de mon âge qui ont l'ouverture de passer à la télévision, ça leur a donné le goût de chercher quelqu'un à leur tour. L'autre jour, dans un magasin, une madame de 78 ans me disait qu'elle voulait trouver un homme, mais qu'elle avait peur. Je l'ai écoutée. Je prends le temps pour tout le monde. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça se fait tout seul et ça se passe bien. Les gens sentent ma simplicité. Plusieurs personnes d'un certain âge me sautent dans les bras. Ils sont très ouverts. Ça m'émeut. Crois-tu encore à la possibilité de trouver l'amour dans le futur? C'est sûr. J'ai commencé à fréquenter une fille en mars. Même si je reçois des messages d'au moins 5 femmes par jour qui veulent me rencontrer, je les remercie de leur intérêt, mais je précise que je vois quelqu'un. Je me concentre sur elle. C'était Sylvie, l'agricultrice chouchou de L'Amour est dans le pré. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Des vêtements de travail revalorisés à bon prix. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 7 avril 2025 dans La Presse. En retirant les logos de vêtements de travail en bon état, un centre de formation en entreprise et récupération, CFER, permet à des travailleurs d'acheter des manteaux, des combinaisons, des bottes à embout d'acier et d'autres articles indispensables à prix réduit. Lorsque Yann Petit a eu besoin de vêtements spécialisés durant sa formation de monteur de ligne, il est allé au CFER des Chênes, à Drummondville, où il s'est procuré des vêtements d'été et d'hiver, des bottes et une combinaison. C'était en excellent état, pratiquement neuf. Je me suis fait des réserves. J'en ai pour plusieurs saisons. Ça a valu la peine de faire quelques kilomètres de plus, témoigne ce résident de Magog. Ça bat les recherches que j'ai faites sur Marketplace. Les particuliers demandent plus cher et c'est plus de trouble. Un des bons côtés du CFER, c'est qu'ils ont beaucoup de stock. Donc, il y a de bonnes chances que tu trouves ce que tu veux dans ta taille. Le centre offre des habits à bandes réfléchissantes, des bottes imperméables, des gants à trois doigts, des vestes en polar, des cache-cou et des chandails en laine mérino, entre autres. Des élèves de l'école secondaire La Poudrière traitent ces vêtements pour qu'ils puissent être vendus au public. Ils retirent les logos des entreprises qui en ont fait don et les remplacent par des pièces du même tissu, une opération appelée dépersonnalisation. Grâce à cette intervention, des milliers de vêtements qui, autrement, auraient dû être retirés de la circulation gagnent une nouvelle vie. Les élèves qui font ce travail sont inscrits au programme CFER, un parcours de 3 ans pour jeunes de 15 à 18 ans qui éprouvent de grandes difficultés d'apprentissage. On leur offre un parcours de formation axé sur le marché du travail, mais aussi on leur permet de prolonger leurs années de scolarité. Notre objectif, c'est d'amener les élèves à développer leurs compétences et atteindre une certaine maturité, explique Catherine Gouin, enseignante en adaptation scolaire et sociale. Développer des valeurs. Durant 2 ans, les journées à l'école sont partagées entre l'apprentissage des matières de base, français, maths, anglais, etc., et la formation de type entreprise, dont la dépersonnalisation de vêtements. En 3e année, les élèves passent 3 jours par semaine en stage en entreprise et les 2 autres à l'école. Les jeunes fabriquent d'autres articles à base de tissus récupérés, dont des napperons, des sacs pour transporter des bouteilles de vin et des chouchous pour attacher les cheveux. Le but premier n'est pas de trouver un emploi dans le secteur du textile, précise Mme Gouin. Oui, ils vont gagner des compétences en couture. Ils vont être capables d'utiliser la machine, mais c'est vraiment plus tout ce qui est autour, comme la minutie, la constance et l'effort, même une journée où ça leur tente moins. Le prétexte de coudre permet de développer ces valeurs qui vont faire d'eux des bons travailleurs. En février 2025, le CFER a tenu boutique durant une demi-journée dans un de ses locaux, une première, pour permettre aux élèves de s'acclimater avec l'accueil et l'accompagnement de clients et le paiement. Vaste réseau. Le Québec compte 22 CFER, des écoles-entreprises spécialisées dans la récupération de diverses matières. À Drummondville, on travaille aussi avec du bois, dont celui provenant de palettes. Dans d'autres régions, on traite du matériel électronique, des documents à déchiqueter ou des appareils à piles. 7 CFER travaillent le textile. Selon Guillaume Leduc, directeur général du réseau CFER, ce que recherchent nos clients, c'est d'avoir une option de recyclage, mais aussi une option de protection de l'image corporative. Ces entreprises ne veulent surtout pas que les vêtements portant leur logo soient achetés dans une friperie par des gens mal intentionnés, qui pourraient se faire passer pour leurs employés, illustre-t-il. Les CFER agissent aussi sur le plan social en préparant des jeunes à l'emploi pour qu'ils aient de meilleures possibilités professionnelles. Le réseau CFER a reçu 25 000 articles à dépersonnaliser l'an dernier, dont 6 000 d'Hydro-Québec. Une vingtaine d'autres clients, la plupart confidentiels, font appel à ces services pour 1,40 $ l'unité. Les manteaux sont presque tous vendus ou donnés. Une partie des combinaisons et des bottes à embout d'acier vont aux élèves des CFER. Le coton des T-shirts peut servir à fabriquer de nouveaux produits. Mais pour certains articles, comme le polo en dry fit, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est là que notre fast fashion nous revient, déplore M. Leduc. Le programme des CFER vise aussi à former des citoyens engagés, notamment en utilisant l'actualité en classe. On organise des caravanes avec lesquelles les élèves vont parler de développement durable dans divers milieux, dont des écoles primaires. C'était « Des vêtements de travail revalorisés à bon prix », un texte d'Ariane Kroll paru le 7 avril 2025 dans La Presse.